Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là donc à la librairie Mola à Bordeaux et sur le site ecoloinfo.com où nous sommes retransmis en direct. Donc le monde entier peut suivre cette discussion. Donc j'ai le plaisir d'animer ce soir cette conférence en partenariat avec Ecoloinfo sur le thème du woofing à l'occasion de la sortie du livre Woofing, le guide pour des vacances solidaires, économiques et écologiques, écrit par Nathalie Joabogno, qui est là à côté de moi. Nathalie et son mari Nicolas font partie de l'équipe Écolo Info, tout comme moi. Et c'est pour ça que nous nous connaissons bien et je me permets de les tutoyer pendant cette conférence. Donc bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tout le monde, merci d'être là.
Alors, pour vous présenter brièvement, donc vous avez 27 et 28 ans, vous travaillez tous les deux dans le secteur de la communication et vous êtes en couple depuis quelques années. Et en fait, le projet d'un tour du monde s'est fait assez rapidement. Et donc, ce livre est le résultat de ce tour du monde que vous avez fait maintenant il y a 2 ans, à peu près.
Commencé il y a deux ans.
Alors, je vous propose de parler en premier du woofing, après du projet en soi, comment vous l'avez préparé, etc., du livre. Et après, nous aurons les questions du public. Les personnes qui sont là pourront vous poser quelques questions. Alors, qu'est-ce que le woofing, Nathalie? Peux-tu nous expliquer ce qu'est le woofing et s'il y a un équivalent en français?
Alors, le woofing, généralement, c'est vrai qu'on utilise l'acronyme anglais. L'acronyme signifie plusieurs choses. Worldwide Opportunities on Organic Farm, ou alors Willing Workers on Organic Farm, ça a plusieurs définitions. En gros, le principe, c'est un concept de vacances écologiques et solidaires, où les woofers vont chez des hôtes travailler 4 à 5 heures par jour en échange du gîte et du couvert. Donc au début, c'était plutôt orienté autour de fermes, autour de l'agriculture biologique, et depuis quelques années, donc le concept existe depuis 1970, il est né en Angleterre, et depuis tout ce temps-là, le concept s'est démocratisé, on voit maintenant apparaître des familles comme vous et moi, qui ont besoin d'un petit coup de main, de bricolage, demander de l'aide de woofer pour un week-end, pour une semaine, pour un mois, pour... voilà.
D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a un portrait type du woofer?
Alors, portrait type, oui, voilà, c'est nous.
Dans des jeunes ou ça peut être à tout âge?
Alors, c'est complètement disparate et hétérogène, et c'est tant mieux parce que c'est aussi une des richesses de l'affaire. Et nous, en tout cas, de notre expérience, hein, parce qu'on a fait ça pendant... Notre voyage a duré 18 mois et on a fait ça pendant 9 mois, du woofing, 9 à 10 mois. Et on a rencontré vraiment autant de réponses à la question que tu viens de poser qu'il y a de gens. Parce que on a tous une raison différente de vouloir faire ça. Il y en a, c'est pour voyager moins cher, parce que c'est vrai que travailler contre le gîte et le couvert, bah, ça offre une certaine différence dans le prix que peut représenter un voyage, surtout sur le long terme. Il y en a qui veulent apprendre justement une partie d'un métier autour, bah, que ce soit de l'exploitation biologique, mais aussi de l'éco-construction, ce qui était en partie notre cas. Il y en a qui veulent tout simplement rencontrer des gens, parce que si la base du woofing, ça reste l'échange, et ça reste vraiment pouvoir être dans un pays avec des gens qui habitent ce pays en perdant complètement son étiquette de touriste. Et ça, c'est très très important, surtout dans certains coins du monde où c'est pas forcément facile de justement d'arriver à ça, pour ne pas le citer, le Japon. Voilà.
D'accord. Pourquoi vous avez choisi de voyager à travers le woofing? Pourquoi vous auriez pu faire du couchsurfing? Enfin, il y a plein de façons maintenant de voyager. Pourquoi vous avez choisi cette façon-là?
Alors, on a choisi le woofing un peu par hasard. En fait, on est allé dans un salon un jour sur l'éco-construction et on a rencontré une personne qui avait fait du woofing et qui nous en a parlé, parce que nous, notre but au début, c'était de faire du bénévolat ou du volontariat, comme certaines personnes font en Afrique et dans d'autres pays du tiers-monde. On voulait faire ça pour avoir un côté solidaire à notre voyage. Et en fait, on s'est dit, bah oui, mais on aimerait bien aussi apprendre quelque chose quand même, qui est un échange qui se fasse avec les gens qui vont nous accueillir et qu'on va rencontrer. Et donc, cette personne nous a dit, faites du woofing. Le woofing, c'est formidable. Alors, il nous a expliqué, il nous a dit que c'était disponible dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Et donc, en fait, on a tissé notre voyage autour de ça. Au début, on voulait partir simplement en Nouvelle-Zélande pendant une année, faire un visa vacances-travail. Et on s'est dit, c'est quand même dommage, puisque c'est un voyage autour de l'écologie, d'aller à l'autre bout du monde et de ne pas s'arrêter sur le chemin. Donc voilà, on a tissé ce voyage, on a choisi des destinations. Alors on a commencé en France, on est allé ensuite au Canada, en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois, on est revenu par le Japon et on a fait un petit bout des pays sud-est asiatiques. On avait d'autres destinations prévues au début et puis les aléas de voyage ont fait que ça s'est passé ainsi. Et donc le woofing, c'était et pour faire des économies et pour, comme disait Nicolas, rencontrer des gens et apprendre des choses.
Donc le voyage a duré 18 mois, c'est ça au total?
Oui.
D'accord. Et quelles ont été les bonnes surprises du voyage et les déconvenues, peut-être des anecdotes un peu... pas drôle.
Alors c'est vrai que des anecdotes pas drôles, il y en a souvent. C'était une question qu'on nous pose assez fréquemment parce que comme le woofing est un concept qui est assez nouveau et qui est peu connu, les gens nous disent toujours mais est-ce que c'est pas de l'exploitation, ou alors est-ce qu'on a bien à manger 3 fois par jour, est-ce que ceci cela, tout plein de questions un peu importantes quand même. Et nous on s'est posé ces questions aussi quand on a monté notre voyage, on n'a pas trouvé de réponse parce qu'il y a pas d'endroit qui centralise les informations sur le woofing, que ce soit au niveau de la France ou au niveau international. C'est pour ça qu'on a écrit le livre, en fait. Mmh. Et donc, le woofing, les bonnes surprises, ça a été qu'on a rencontré des gens qui étaient absolument formidables, qui étaient très généreux, qui étaient très, très ouverts d'esprit, qui étaient très solidaires et qui avaient un style de vie qui nous plaisait, nous convenait. Tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, et c'est vrai que, encore une fois, au même titre qu'il n'y a pas vraiment de woofer type, il n'y a pas non plus d'autres types, parce qu'on va rencontrer... des gens qui font ça pour avoir un coup de main, ou des gens qui font ça parce qu'ils ont voyagé par le passé, et après s'être fixé, ils ont quand même le virus de la bougeotte, et pour pas quand même tout replaquer à chaque fois, ils accueillent un bout de voyage à la maison, que sont les woofers, qui viennent par des histoires leur raconter un petit peu ce qu'eux ont fait. Et le woofing, il n'y a pas d'argent qui est en jeu, et ça c'est très important parce que ça simplifie énormément les relations entre les gens. C'est vraiment un échange de bons procédés. Et du coup, les bonnes surprises, ça a été vraiment des gens qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont ouvert leur chez eux, pour des moments qui peuvent aller, effectivement, comme le disait Nathalie, de quelques jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et on a rencontré des woofers qui avaient passé 6, 8, 10 mois chez les mêmes personnes, où là, ça devient quasiment la famille. Et c'est quasiment irracontable et difficilement quantifiable. Et par contre, c'est vrai qu'il y a aussi parfois le revers de la médaille, que peut être certaines déconvenues, parce que c'est un système, et comme dans tout système, il y a des abus, dans un sens ou dans l'autre. Et on a rencontré effectivement des gens qui se rapprochaient plus du terme exploiteur que du terme hôte, et on a aussi rencontré des woofers qui se rapprochaient plus du terme, on va dire, profiteur, ouais, que...
parasite.
Et on a aussi rencontré des gens qui n'avaient pas compris qu'il fallait bosser.
Oui.
On a rencontré des gens qui se sont dit super, on va à la campagne, on est là et on est nourri, logé, maison d'hôte, ça se passe bien, et puis les gens chez qui ils étaient manque de peau, non, c'était aussi ça qui faisait l'anecdote était marrante, mais les gens qui étaient là, quand on laissait passer quand même 2-3 jours avant de dire là va peut-être falloir filer un coup de main quand même, parce que ça fait 3 jours que vous êtes là, allez vous promener à rien faire, et voilà. Donc
alors très concrètement, pour vous donner vraiment un exemple, une bonne surprise, c'est quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande dans une famille où on a vu qu'on avait une chambre absolument gigantesque avec un lit king size, avec ils avaient une piscine, ils avaient un jacuzzi, on travaillait 3 heures par jour et la dame nous faisait des plats avec des desserts, des monceaux de desserts incroyables et délicieux. Donc ça, c'est le genre de bonne surprise qu'on a quand on fait du woofing, c'est rare mais ça existe.
Vous êtes resté combien de temps là-bas?
Alors on devait rester 3 semaines, mais on est resté 5 semaines en fait. Si, on est resté 5 semaines chez eux. Et après, le genre de mauvaise surprise que l'on peut rencontrer, toujours en Nouvelle-Zélande, on est arrivé chez une dame qui était assez militante et activiste, en tout cas disons qu'elle avait des idées très arrêtées sur les choses et qu'elle n'aimait pas forcément quand les gens n'étaient pas d'accord avec elle. Et elle nous a dit que alors dans le frigo il y a des bières, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher parce que ce n'est pas pour les woofers. Le repas c'est ça, ça et ça, et moi je mange ça. La douche, oui, c'est une douche froide, c'est 5 minutes par jour, et encore vous ne devez pas la prendre tous les jours parce qu'on n'a pas assez d'eau, alors que madame prenait des bains tout le temps. Enfin, des petites anecdotes comme ça rigolotes qui ont fait qu'on s'est dit que c'était une personne assez peu recommandable. Et donc, nous sommes partis parce que quelque chose de très important dans le woofing, comme disait tout à l'heure Nicolas, c'est qu'il n'y a pas de contrat. Rien n'est contractuel. Quand on n'est pas heureux, on s'en va. Et de la même manière, si vous ne convenez pas, les gens peuvent vous demander de partir poliment, je l'espère, mais ils peuvent le faire. Donc voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien qui est signé, il n'y a rien qui vous oblige, il n'y a rien qui les oblige. Donc ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais.
D'accord. Quand on adhère à l'association WOOF France, on a donc une liste des hôtes. Est-ce qu'il y a la possibilité de noter justement les hôtes pour dire attention, comme dans un peu le covoiturage où on peut noter les gens qui roulent bien ou pas, est-ce qu'on peut noter les hôtes ?
Alors ça dépend en fait de la maturité du pays au niveau du... et l'expérience qui est l'historique sur le woofing. En France, ce n'est pas possible par exemple. D'accord. Parce que l'association WOOF France, elle est relativement récente, elle doit avoir 2-3 ans maintenant. Et voilà, donc ils construisent le réseau, ils centralisent, donc il y a pas mal de travail à faire avant tout ça. Mais en Nouvelle-Zélande, où le concept est très ancien, oui, si ça commence vraiment à monter, là il y a un site où il y a effectivement la possibilité de noter un peu, ça m'a vraiment rappelé eBay, quoi. L'idée c'était vraiment de noter, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que...
C'est un mini réseau social, en fait. Ouais. On peut s'inscrire, se faire des acquaintances avec des hôtes ou avec d'autres woofers. C'est assez rigolo. Ouais.
Donc ça fonctionne pas mal. Mais le travers un petit peu de ce système de notation qu'on a pu rencontrer aussi dans d'autres pays, c'est que, justement, comme c'est un contrat uniquement moral, ça repose quasiment à 100% sur une interaction qu'il peut y avoir entre des hôtes et des woofers. C'est donc purement du subjectif. Et il y a des fois, ça colle pas. C'est pas parce qu'il y en a un qui est pas bon et l'autre qui est... Ça colle pas. Il y a des gens avec qui ça le fait pas. Et il y en a qui vont pas avoir l'intelligence de faire le recul dessus et de se dire je laisse une mauvaise note ou je n'en laisse pas. Donc ouais, il faut faire attention à ça. Mais globalement, oui, ça se passe même plutôt très bien.
Parce que très concrètement, en fait, juste une petite parenthèse, pour faire du woofing, en fait, c'est quelque chose qui est très indépendant. C'est pas comme quand vous voulez faire du bénévolat ou de la solidarité internationale, vous avez une association qui s'occupe de tout chapeauter pour vous, de vous réserver votre billet d'avion, de s'occuper de votre hébergement là-bas et tout. C'est vraiment très libre. Donc il y a une association par pays. Les associations sont pas formalisées, comme disait Nicolas, les unes vis-à-vis des autres. Donc il y a une disparité dans la qualité des sites internet. Alors le site français va être refait bientôt. Hein. Pour ceux qui veulent partir faire du woofing dans les 6 prochains mois, le site va être amélioré. On en a discuter avec eux, justement. Et
vous allez les aider?
Non, on va pas les aider. On peut leur donner des conseils s'ils veulent, mais on va pas les aider. Et donc voilà, donc on fait tout soi-même. On va sur le site internet, donc en l'occurrence woof.fr, on commande son petit livret, on reçoit les adresses des hôtes et en fonction de la localisation géographique de tel ou tel hôte ou alors les activités qu'ils proposent, on choisit de s'inscrire ou pas, en leur passant un petit coup de fil, mais on s'occupe de tout soi-même. Et si ça va pas, on peut s'en prendre qu'à soi-même, comme si ça va bien en fait.
D'accord. Et en France, donc vous avez fait du woofing en France, il y a combien d'hôtes à peu près, vous savez
de... Il y a à peu près 500 hôtes actuellement, il y en a de plus en plus chaque année. Et 500, au regard de la taille de notre pays, c'est quand même pas mal.
Ouais.
C'est quand même pas mal.
Et à Bordeaux, il y en a ?
Oui, il y en a
dans la région bordelaise.
Alors pas à Bordeaux, parce que le woofing, effectivement, contrairement au couchsurfing dont on parlait tout à l'heure, le woofing, c'est plutôt un concept
rural,
voilà. Il faut, disons qu'il faut au moins un bout de jardin, on peut imaginer ça dans une échoppe, mais voilà. Et il y en a pas mal dans la région Aquitaine, ouais. J'avais regardé par curiosité. Nous, on s'est centré plutôt par hasard sur le Gard, en fait. On a fait 3 familles dans le Gard. C'était dans le Gard ou c'était partout dans le Gard. Et donc, voilà. Donc c'est super le woofing en France parce que ça permet de découvrir son pays différemment, justement. Ça permet d'aller se balader dans une région, peut-être de faire du repérage comme nous on va faire, parce qu'on refera du woofing plus tard. Aller faire un peu du repérage si on a envie de s'installer dans telle ou telle région. Et puis de voir son pays avec une culture différente, avec des yeux de touriste peut-être. Ça, c'est intéressant, je pense.
Et est-ce qu'on peut woofer sur un week-end, par exemple, si on a envie d'aller...
Oui.
Tu dis découvrir une région.
Oui. Alors après, tout est relatif. C'est-à-dire que si c'est une famille qui, par exemple, est au milieu des Pyrénées ou au milieu d'un endroit qui est assez difficile d'accès et où on apprend des choses qui sont assez techniques... La formation prend un certain temps, donc il faut aussi le temps de se sentir à l'aise chez ces gens-là, donc on peut imaginer qu'il y a une adaptation de 3-4 jours, et c'est vrai que quand on reste un week-end, parfois c'est un peu délicat. Moi, pour un week-end, je recommanderais plutôt d'aller dans une structure type les Amanons, qui est une structure, une ferme en fait, qui fait gîte aussi, mais qui s'ouvre à des woofers. Ce genre de structure, ils ont, on fait ça, on fait de la permaculture, on découvre les animaux de la ferme, on découvre ça. Et ça, c'est bien parce que c'est bien structuré. Mais après, c'est vrai que dans une famille, c'est bien de prendre le temps aussi de les découvrir et d'avoir une amitié avec eux.
De créer l'interaction, oui.
Donc vous êtes installé à Bordeaux depuis fin août. Est-ce que vous avez envie de repartir bientôt ?
Bientôt, on ne sait pas trop parce qu'il y a un heureux événement qui est pour août, justement. Repartir, oui, mais différemment.
En woofing aussi
Ouais, refaire du woofing, ça c'est certain. Quand on ne sait pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on partira moins longtemps. Et on centrera plus les choses. C'est un des enseignements entre guillemets qu'on a tiré du voyage, c'est que à la base, ce qu'on voulait, nous, c'était l'accès sur trois points, qui étaient la construction écologique, où notre but c'était de mettre le plus la main à la pâte pour être le plus à même de construire notre maison nous-mêmes. Le deuxième, c'était la permaculture, qui est un mode d'agriculture biologique qui est extrêmement pratiqué en Nouvelle-Zélande. Et le troisième, c'était l'autonomie énergétique sous toutes ses formes et donc l'utilisation des énergies renouvelables sous l'habitat. Et en fait, quand on regarde, on a appris effectivement des choses sur ces domaines-là, mais c'était beaucoup trop gros et beaucoup trop ouvert pour finalement on arrive à vraiment, récupérer les compétences auxquelles, en tout cas moi, je voulais, auxquelles je m'attendais. Donc repartir, oui, moins longtemps et plus ciblé.
Oui, c'est très important quand on... Bon, nous, on est partis sur un très très long voyage. Effectivement, tous les gens qui font du woofing n'ont pas forcément envie de partir comme ça pendant un an et demi. Mais même quand on part juste quelques mois, je pense que c'est bien d'avoir un objectif. Se demander pourquoi est-ce qu'on fait ça, se demander qu'est-ce qu'on recherche. Parce que finalement, si on est ouvert à tout, on s'ouvre à rien et on risque d'être déçu. Et je pense que, notamment quand on part en couple ou avec des amis, c'est bien, avant de prendre une feuille de papier, d'écrire, voilà, moi j'ai envie de découvrir ça, ça, ça et ça. Ou à contrario, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on peut aussi arriver dans une famille, nous ça nous dérangeait pas, mais on peut arriver dans une famille où ils ont des toilettes sèches, où la douche c'est dehors, où le confort c'est bof bof et où la propreté c'est limite. Et donc nous ça nous dérangeait pas du tout ça, mais il y a certaines personnes que ça peut un peu rebuter. Donc dans ces cas-là, c'est bien de s'être posé la question avant de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas.
D'accord. Oui, derrière, ça, c'est bien décrit dans le guide. Enfin, posez-vous décrit, les bonnes questions, préparez bien en amont et tout ça. Ouais. Donc, justement, je vais venir un petit peu parler un peu du livre. C'est le premier guide sur le woofing qui paraît en France. Ouais. Ça n'existait pas jusqu'à présent.
Non.
C'est vrai que c'est encore un terme qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, avant de vous connaître, je ne connaissais pas. C'est pas encore très, très répandu. Donc, vous avez choisi de faire un guide vraiment pratique, pas un carnet de voyage. Alors, il y a beaucoup de photos personnelles, d'anecdotes et tout ça, mais c'est vraiment un guide pratique qui se destine aux gens qui déjà se posent la question, est-ce que j'ai envie vraiment de faire ça? Et comment je m'y prends? Et en fait, toutes les étapes que vous avez passées et un peu débroussaillées tout seul, là, vous les décortiquez. Bon, vous mâchez le travail, en gros, pour les gens. Ouais. C'est assez sympa. Et pourquoi, donc, vous avez choisi de faire un guide pratique plutôt qu'un carnet de voyage, finalement?
En fait, ce qui s'est passé pendant le voyage, pour juste remonter un tout petit peu en arrière, donc on avait un site internet qui était quand même bien consulté, parce qu'on décrivait notre voyage, on faisait des fiches de savoir, tout ça. On a échangé beaucoup avec des woofers et on a reçu, peut-être des centaines de mails de personnes qui nous demandaient, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut amener ses draps, est-ce qu'il faut une assurance, est-ce qu'il faut un visa, est-ce qu'il faut ci, est-ce qu'il faut ça, comment ça se passe? Et en fait, moi j'ai compilé un peu toutes les réponses à ces questions et je voulais faire une sorte de foire aux questions. Et je me suis dit, en même temps, on a toutes ces photos, on a toute cette expérience, j'aimerais bien publier un carnet de voyage, mais le carnet de voyage, je suis pas Nicolas Bouvier, ça n'intéressait personne, donc tant qu'à faire, je vais publier un livre, un guide factuel, quoi. Mm-hmm. Vraiment factuel, donc c'est le cas, c'est un guide factuel, ça vous raconte pas nos vacances, ça raconte vraiment le woofing, qu'est-ce que c'est, comment on en fait, en parlant pour les woofers et pour les autres. Et donc à ça sont venues se greffer les anecdotes de notre voyage et les photos de notre voyage, parce que donc on avait cette base de données sous les yeux qui était intéressant d'exploiter. Et puis je pense qu'on a fait de jolies photos quand même, donc on voulait les utiliser. Et donc voilà, donc après, trouver un éditeur... écrire les chapitres.
Ça s'est fait assez rapidement, en fait, de trouver un éditeur par un contact. La personne a été assez enthousiasmée.
Assez enthousiaste, en fait. Comme le concept est un peu novateur, un peu original, on a eu de la chance que quelqu'un ait envie de se lancer avec nous dans cette grande aventure. Et le livre s'est écrit très vite, en fait, puisque le projet a été signé en novembre de l'année dernière. Et donc voilà, j'ai mis 2 mois à l'écrire. Et puis après, on a sélectionné les photos. On a eu vraiment une super équipe. L'éditeur a fait un super boulot très, très rapidement. Et moi, je suis vraiment très, très contente d'avoir travaillé avec
l'éditeur, on peut le citer peut-être?
C'est Democratic Book. Voilà. Ouais, je les remercie très chaleureusement. La graphiste a fait du super boulot. L'éditrice déléguée était géniale aussi. C'était
si tu nous regardes.
Voilà. Spéciale dédicace.
Donc, il y avait 11 000 photos au total. Vous avez fait comment pour les photos, stocker? Vous aviez des cartes mémoire de fou.
Oh, c'est toute une organisation de stockage. Ça, okay. Puis on avait des vidéos aussi, donc ouais. Il fallait tout stocker. On a acheté des disques durs, on a gravé en double les CD, on les a renvoyés à nos... chez ses parents, chez mes parents. Enfin, c'était toute une...
Il y avait une organisation ouais, qu'il fallait adopter, parce que c'est vrai ce qu'on n'a pas trop dit non plus pour le moment, mais c'est que le voyage, on l'a financé via plusieurs sources. Donc, il y avait une partie de nos économies, ça, c'était inévitable.
Il y a toute une partie budget dans le livre, d'ailleurs, si vous voulez financer votre voyage.
C'est vraiment un point qui est primordial. Et en fait, nous, ce qu'on voulait aussi, c'était apporter des choses et d'un point de vue... écologique au sens large, essayer de diffuser ce qu'on nous on pensait être une bonne conscience entre guillemets. Et donc du coup faire en sorte que les gens puissent s'identifier à ce qu'on racontait. Donc pour ça on a voulu écrire des articles. Donc on est allé voir en fait des municipalités, des collectivités, on leur a présenté les choses et puis on a eu une bourse départementale, une bourse régionale, une bourse de la ville de Puteaux dans laquelle on habitait. On a eu un partenariat aussi. Donc avec Veolia Environnement, où on leur écrivait donc, des articles, on leur envoyait des reportages photos, vidéos. Et en fait, c'est finalement ce travail dans le voyage qui nous a permis de financer en grande partie justement le voyage. Et on continue d'ailleurs à écrire pour certains médias, qu'ils soient en ligne ou en papier, notamment La Maison écologique, qui est le premier mensuel sur la construction écologique en France. On rédige régulièrement des articles pour eux. Et voilà, donc ça a été finalement un bon mode de financement. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'organisation, c'est vrai que c'était parfois un petit peu compliqué dans les faits, parce que ne serait-ce que matériellement parlant, très concrètement, on avait un gros sac à dos de moi j'avais 80 litres dans le dos et puis 15 kilos devant de matos photo, vidéo et tout ça. Et puis ça, c'était tout le temps, quoi. Et c'était vrai que ça a été fatigant physiquement, d'un point de vue au niveau le voyage sur tout ce qu'on a fait, les gens chez qui on a travaillé, etc. Mais le fait de se trimballer toujours avec sa maison sur le dos aussi pendant 18 mois, c'est une expérience à vivre.
Donc le guide est donc très pratique, il y a des pages de notes, c'est assez original. Enfin, moi, je n'avais pas eu l'occasion de voir souvent ça, où les gens peuvent écrire vraiment, noter au fur et à mesure... Bon, je ne sais pas si on va voir de loin. Et alors, c'est un peu un livre nouvelle génération, parce qu'il y a des QR codes dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un QR code et pourquoi vous avez fait ce choix? Est-ce que c'est ton idée ou est-ce que c'est l'éditeur qui a eu cette idée-là? Comment ça marche?
Alors oui, les pages de notes, en fait, c'est parce que ce qu'on voulait, c'était désacraliser l'objet livre. Moi, j'avais envie que ce soit un livre qu'on puisse prendre, tordre, emmener dans son sac, trimballer, vraiment le livre du baroudeur, parce que le woofing, c'est pour les baroudeurs aussi. Donc, on voulait que ce soit un livre qui s'adapte à ça, mais ça reste quand même un livre très beau, très élégant, tout ça, hein, aussi. Il en faut pour tout le monde. Et alors, les QR codes, c'était mon idée, puisqu'on on a un bon ami commun, Patrice Zana, qui a fait ça sur son livre. Et donc, je me suis dit, bah voilà, c'est une super idée. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? Et en fait, les QR codes, c'est... je ne sais pas si c'est né au Japon, mais en tout cas, c'est très utilisé au Japon. On en a beaucoup vu lors de notre passage là-bas. Et moi, j'y crois vachement à cette technologie. Je pense que... Donc, c'est les QR codes, vous savez, c'est les petits carrés où il y a des pixels dessus qu'on prend en photo avec son téléphone portable ou avec son téléphone normal et puis qu'après on peut mettre sur internet et ça amène soit vers des photos, soit vers des vidéos ou soit vers des URL. Là en l'occurrence il y en a 17 dans le livre qui sont éparpillés de la couverture jusqu'à la quatrième de couverture, donc tout le long du livre, et ça renvoie sur le site du livre qui est woofguide.com, pour continuer la lecture. Et ça renvoie aussi vers d'autres sources. Par exemple, à un moment, je renvoie sur une vidéo très intéressante que j'avais envie de partager avec les lecteurs sur un point en particulier. Donc ça nous a permis de donner une vie en fait, au concept en dehors du livre. Donc on peut les utiliser, mais si on ne les utilise pas, ça n'enlève rien à la lecture. C'est un petit bonus,
oui,
en fait.
C'est un petit bonus, parce qu'il y a QR code et il y a aussi des URL classiques.
Il y a aussi des URL, oui, tout à fait. Oui.
Voilà,
oui.
Une bibliographie, un
lexique aussi.
Un lexique, parce que c'est vrai qu'il y a des mots qu'on utilise, qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, enfin, c'est vraiment très complet. Est-ce que dans le futur, vous imaginez accueillir des woofers chez vous?
Ah oui, complètement. Ah ouais, on s'est posé la question d'ailleurs tout le long du voyage et c'est marrant parce que d'autres woofers avec qui on a discuté se posent aussi régulièrement la question, à savoir si moi j'étais un hôte, comment est-ce que je recevrais mes woofers et puis quel est mon hôte mon hôte idéal, quelle est la maison idéale, quelle est la configuration idéale. Et on s'était fait toute une petite liste comme ça de points qui étaient importants pour nous. Nous, en tant que couple, on avait envie d'avoir notre chambre pour avoir notre petit coin à nous, notre petite intimité. Et ça, c'était important. On voulait aussi pouvoir choisir un petit peu ce qu'on mange de temps en temps. Enfin, il y avait plein de petits points comme ça que vous verrez si un jour vous faites du woofing. Et donc on aura des woofers sans problème pour nous aider à construire notre maison aussi, parce qu'il va nous falloir... Ouais, parce que le but du voyage, c'était aussi d'apprendre à construire notre maison. Donc maintenant, on sait plus ou moins. Donc on va commencer d'ici quelques années. On prendra plus ou moins, oui. Et on prendra des woofers.
Ok. Bon, je crois qu'il est temps de passer aux questions du public, venus nombreux ce soir pour vous écouter. Donc, c'est à vous. Qui veut commencer ? Alors, je vais répéter pour nos amis internautes qui nous suivent sur Écolo Info. Au niveau du budget, est-ce que vous avez une idée à peu près de combien ça a coûté au total ? Bon, là, on parle sur un an et demi, donc c'est quand même un gros voyage. Mmh. Mais donc, pour vous, ça...
Alors, pour un tour du monde, c'est des statistiques qui ont été faites sur d'autres voyages, hein, pas que notre voyage. Un tour du monde, c'est à peu près 15 000 euros par an et par personne. Et quand on dit ça, on parle sans woofing. Parce que c'est-à-dire... après, ça dépend des pays. C'est-à-dire que si tu vas que dans des pays riches, entre guillemets, comme le Canada ou les États-Unis, le Japon, même la Nouvelle-Zélande, tout ça qui sont des pays vraiment très développés, là, ça coûte plus cher. Alors que si tu vas peut-être plus en Amérique du Sud, si tu es un petit peu plus route dans ta façon de voyager, si tu vas en Asie du Sud-Est notamment, qui sont aussi des destinations très économiques, là, ça coûte moins cher. Et un voyage en woofing, ça coûte considérablement moins cher, puisque donc on fait l'économie du gîte et du couvert pendant tout le temps où on woof. Après, il faut compter les déplacements, il faut compter les billets d'avion, ou ce qui permet d'aller d'un pays à un autre, en fait, hein, la manière, tout ce qui est de transport. Il y a un petit peu de logistique aussi à compter, mais nous, très clairement, le voyage nous a coûté 23 000 euros. Mais on était à deux, et c'était pendant 18 mois. Donc le woofing nous a permis d'économiser beaucoup.
Et revenir dans une vie normale, après ça, c'est pas trop compliqué ?
Bizarrement, ça s'est fait tout seul. Moi, toi comme moi, d'ailleurs, on appréhendait un petit peu le retour à la, entre guillemets, normalité, le fait de repartir, que ce soit travailler, de vivre au même endroit pendant plus d'une semaine. Ça, c'est aussi, c'était assez nouveau au début. Et en fait, c'est assez ahurissant la vitesse à laquelle on revient dans ce qu'on a connu avant. La routine, rattraper. La normalité, à partir du moment où on est dans un cadre et un monde qu'on connaît, un pays dans lequel on comprend ce qu'on raconte, parce que quand on est arrivé en France, donc en août dernier, on revenait donc de 5 mois, on avait passé à Japon et toute l'Asie du Sud-Est. Le Japon, c'est le pays civilisé dans le sens industrialisé, avancé, où on parle le moins bien anglais du monde quasiment. Donc compte tenu que c'est un alphabet qui est complètement différent, nous on a passé 2 mois au Japon, clairement on n'a rien compris de ce qu'on nous disait, on n'a rien compris de ce qui était écrit. Et comme c'est une culture qui est en plus totalement différente de la nôtre, c'était assez ahurissant, on a l'impression d'être dans un film tout le temps. Donc le fait...
Oui,
ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et effectivement, quand
mais c'était super quand même.
Ouais, oui, c'est vrai. Présenté comme ça, ça fait pas envie. Mais
ça fait peur, mais c'était super.
Donc oui, ça s'est fait relativement bien, mais c'était une vraie question.
On a tous les deux eu de la chance de retrouver très rapidement des emplois, parce qu'il fallait quand même... remettre un peu d'argent sur le compte en banque, hein, qui était considérablement vidé après ce voyage. Et puis on est surtout très heureux d'être venu à Bordeaux, qui est une ville d'où on n'est pas originaire ni l'un ni l'autre. On est venu pour nos amis. Et on est très heureux de ce choix. À terme, peut-être qu'on n'aura pas une vie comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une vie plus citadine. Je pense qu'on aura plutôt une vie rurale et vraiment dans une campagne plus profonde. Mais... Et là, et du coup, on a fait la transition sur une nouvelle aventure, puisqu'on attend un enfant, et ça va être quelque chose de formidable qui va nous permettre de ne pas retomber dans cette routine qu'on a vraiment voulu éviter au maximum avec ce voyage.
Et ça, le woofing en famille, c'est possible.
Ah oui, ça, c'est tout à fait possible.
Ça permet de rebondir aussi.
Oui, d'ailleurs, c'est un chapitre entier du livre.
Oui, on nous pose souvent la question, mais c'est possible. Alors, en France, il faut savoir que la réglementation interdit de souscrire à l'abonnement woofing, donc sur le site woof.fr dont on parlait tout à l'heure, de souscrire l'abonnement en dessous de 18 ans. Dans les faits, on n'a pas le droit de woofer quand on n'a pas d'abonnement, mais si on a 16 ans et qu'on a envie de woofer, on y va, quoi. C'est... on n'est pas dans l'illégalité quand on fait ça, parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de règles en fait sur le woofing. Hein, de la même manière que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'étranger et au visa, vous n'avez pas besoin d'un visa de travail pour faire du woofing. Il suffit simplement d'avoir soit un working holiday visa ou même un visa touristique. À la douane, si on vous pose des questions, vous dites que vous allez visiter... je sais pas.
Une vieille tante.
Voilà, vous avez une tante et vous avez une vieille tante, et ça, et vous allez visiter. Ça marche toujours. mais on ne pourra pas vous embêter parce que vous faites du woofing, c'est pas quelque chose. Mais vous ne serez pas embêté parce que c'est comme si vous invitiez des amis à la maison qui viennent vous filer un coup de main pour retaper votre jardin ou faire ci, faire ça. Donc on a la chance pour l'instant d'être dans un flou législatif de ce côté-là. Profitons-en parce que c'est quand même une belle expérience de faire du woofing en famille et de recevoir des gens qui ont des enfants aussi. Je vois que vous avez un petit enfant, ça peut être sympa si vous avez une autre famille qui vient avec un enfant aussi, ça va faire des nouveaux copains, on découvre des choses, on va se promener ensemble. Alors, quand on fait du woofing en famille, on a interrogé justement sur le site woofguide.com, j'essaie d'interviewer régulièrement et de faire des portraits d'hôtes et de woofers pour continuer un peu les anecdotes justement et avoir un côté concret, pratique. Récemment, je parlais avec une jeune fille qui est partie faire du woofing avec son petit qui avait 1 an et demi. Ça paraît très petit, mais justement, c'était l'âge où il commençait à marcher, à découvrir le monde. Et il a appris plein de mots rigolos, plein de mots nouveaux tout de suite. Il connaissait les champignons, il connaissait le nom des grenouilles. Et donc, c'est intéressant de faire ça avec son petit. Ouais. Nous, c'est ce qu'on fera d'ailleurs, je pense. Ouais, on partira quand elle aura 1 an et demi, 2 ans, faire du woofing.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nathalie et Nicolas? Alors, quelles sont les modalités donc, pour des courts séjours en woofing?
C'est complètement lié en fait, à la nature de l'activité de l'hôte. C'est-à-dire que, à contrario, des gens qui sont en train de construire une maison et qui ont besoin sur un chantier, ce qui nous est arrivé en Nouvelle-Zélande par exemple, qu'on nous apprenne à comment faire des briques en terre crue, des choses comme ça, où là il y a vraiment besoin d'un investissement important.
Il y a une formation en fait.
Ouais, en dessous d'une semaine, c'est complètement inintéressant pour l'un comme pour l'autre. Et à contrario, il y a des gens, quand on arrive, et c'est très saisonnier, quand on arrive chez des hôtes qui ont un focus sur le jardin par exemple, et qu'on arrive en saison de ramassage. On a vécu pendant 2 semaines dans une famille au Canada, une famille de 7 personnes qui travaillait uniquement pour assurer leur subsistance et qui était autonome alimentairement à plus de 80%, ce qui est exceptionnel, surtout compte tenu du nombre de gens et compte tenu du pays. Et quand on arrive en pleine saison de ramassage, ça prend peut-être 2 heures de prendre le coup de main, de ramasser un fruit, de reconnaître quand il est mûr, de savoir si on peut le faire ou pas et de ne pas l'abîmer. Mais une fois que c'est fait, après, on est quasiment opérationnel. Et donc, du coup, pour le coup, une semaine, c'est largement envisageable. Mais du coup, ça dépend et de l'hôte et de la saison. Et pour les gens chez qui, vraiment, il y a des tâches complètement, on va dire, hétérogènes, qui correspondent plus à un quotidien d'une famille plus que d'une exploitation, là, il y a même des gens qui nous l'ont dit. Nous, on en a rencontré des gens qui nous disaient... Nous, on aime bien le turnover un peu de woofer. On aime bien rencontrer, voir du sang neuf. On n'aime pas trop que les gens s'installe et souvent ça fait partie des autres qui sont les plus ouverts, qui communiquent bien très vite, il n'y a pas de distance ou de choses comme ça, donc du coup le contact se fait très vite ou pas, comme on disait tout à l'heure. Et donc, une fois que le contact est fait, c'est pareil, voilà, une semaine. Nous, il y a des oufs dans lesquels on n'est pas resté longtemps, mais ça a été beaucoup plus intense que des oufs. Enfin voilà, c'est pas lié à la durée.
En fait, très concrètement, il faut, s'il y a un hôte qui t'intéresse en particulier et que tu n'as qu'un week-end ou une semaine, il suffit juste de lui passer un petit coup de fil et de voir avec lui s'il est OK pour te prendre sur une période qui est courte comme ça. Et après, il y a des pays qui sont plus... qui ont plus l'habitude de recevoir des courts séjours. Je pense notamment à l'Angleterre. Je pense que comme c'est un concept qui est né là-bas et qui est donc très très vieux dans ce pays-là, je pense qu'en Angleterre, il y a plus d'autres qui sont prêts, qui ont l'habitude, qui ont de la bouteille là-dedans, qui sont prêts à recevoir des courts séjours que peut-être en France. Je sais pas, j'ai pas suffisamment fouillé la question. Je suis pas sûre qu'en France, il y ait beaucoup de gens qui prennent juste pour un week-end. Une semaine, oui, mais juste un week-end, je sais pas. À moins que ce soit une structure, comme je disais tout à l'heure, une structure un peu ferme, un peu gîte, un peu... voilà. Mais sinon, une famille, je sais pas.
Alors, est-ce qu'il faut une assurance pour faire du woofing ?
Alors, il n'y a pas une loi qui dit qu'il faut une assurance, mais il faut une assurance absolument. C'est sûr que notre corps, c'est notre propriété la plus importante. Alors, à l'heure où on assure, j'en parlais dans le livre, justement, à l'heure où on assure nos téléphones portables, nos biens et où on paye pour nos voitures des prix qui sont considérables, il faut absolument assurer son corps. Et ça, c'est valable aussi dans toutes les choses de la vie. C'est-à-dire que si demain, tu commences à construire une dépendance à ta maison ou que tu fais des travaux, que tu casses un mur, n'importe quoi... Il y a plein d'assurances maintenant, des petits packages qu'on peut prendre pour 15-20 euros en plus par mois, qui parfois sont même ponctuels, qu'on peut retirer quand on a fini les travaux. Et ça, il faut les prendre absolument. Et l'autre n'est pas obligé d'avoir une assurance, comme on disait tout à l'heure, spécifique quand il reçoit des woofers. Mais dans les faits, on s'aperçoit que les gens, ils regardent quand même leur responsabilité civile. Enfin, ils se posent des questions. Donc c'est bien de s'en poser, parce qu'au cas où il y a un problème... Il faut pouvoir assurer, quoi. Mais c'est ton corps, c'est ta propriété. Si tu tombes sur un chantier, on s'était justement posé la question, comme on faisait beaucoup de chantiers et qu'on était amené à utiliser des outils, tout ça, si t'arrive quelque chose, c'est ton problème. C'est-à-dire que si t'as pas d'assurance, c'est dommage.
Et pour rebondir dessus, en France notamment, quand on veut partir à l'étranger pendant un long moment comme on l'a fait, il y a une durée, on va dire, qui est en dessous de laquelle tout va bien, c'est-à-dire un an. Quand on part moins d'un an, il n'y a pas de souci. N'importe quelle compagnie d'assurance a toujours dans ses cartons un contrat qui permet d'assurer au global un an, un package, un truc qui est bien et qui coûte pas trop cher.
Mais qui marche souvent, si je me permets, marche souvent sur le ticket modérateur de la Sécu. L'assurance, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, quand on est parti, nous, on a démissionné tous les deux quand on est parti. Donc après, il faut voir votre situation à vous. C'est-à-dire que si vous êtes, soit au chômage et que vous partez pendant 3 mois, par exemple, ça posera pas de problème parce que vous êtes couvert. Vous avez toujours la sécurité sociale et donc votre assurance qui se base sur le ticket modérateur, ça fonctionne. Nous, on n'avait plus rien, on était en freestyle complet, donc on a été obligé de prendre une assurance qui nous coûtait 80 euros par mois et par personne. Mais on est très contente de l'avoir prise parce que quand on a eu un problème au Vietnam et qu'on a dû faire des analyses, c'était combien les analyses ?
Enfin, ça chiffre très vite, surtout quand on est dans un pays qui n'est pas forcément super bien médicalisé, qu'on est obligé d'aller dans des instituts privés. J'ai eu un problème à l'estomac, j'ai fait deux analyses sanguines, il y en avait pour 700 $. Et ça va très très vite, parce que c'est des soins auxquels ils ne sont pas forcément habitués. Enfin, c'est le principe de l'assurance aussi. Et donc, au-delà d'un an, ça demande plus de recherche. Et c'est ce que Nathalie détaille un peu dans le bouquin, parce que c'est le voyage, on a mis 4 mois à le préparer avant de partir. Et c'est clairement le chapitre de l'assurance qui nous a vraiment dit qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on n'y va pas ? Combien de temps on y va ?
C'est un budget.
Et parce que d'une part, c'était un budget, puis parce qu'effectivement, c'était la base. Comme en plus, on était parti pour être, comme le disait Nat, sur des chantiers, manipuler des outils avec des risques, avec des gens qui étaient souvent très compétents, mais pas des professionnels, qui n'avaient donc pas forcément d'assurance autour. C'est vrai que on se pose des questions. Alors aujourd'hui, sur les chantiers, par exemple en France, dans le cadre de la construction écologique, il y a un concept qui s'est beaucoup développé depuis les 3 dernières années qui s'appelle le chantier participatif et qui permet en fait d'accueillir au sein d'un chantier, la plupart du temps particulier, des gens qui veulent apprendre, encadrés par des professionnels. Donc tout le monde y trouve son compte parce que les particuliers, ils apprennent et les professionnels, ils ont de la main d'œuvre pour avancer avec des gens motivés. Et là, il y a des assurances qui sont créées, il y a des choses qui existent maintenant. Et en tant que hôte, si un jour vous êtes amené à être hôte, vous pouvez prendre ceci de l'assurance, qui ne sont pas non plus exorbitantes. Mais oui, c'est un point important.
Une dernière question, peut-être ? Peut-on se déclarer hôte sur une période donnée dans l'année et dire que le reste du temps, on ne veut pas accueillir de personnes ?
Alors, si ta question, c'est pour faire des économies sur la cotisation... Non, je plaisante. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais au même titre que les woofers payent une cotisation annuelle qui est de l'ordre de, je sais plus, 15 ou 20 euros, hein, c'est dérisoire d'un pays à l'autre. En plus, ça change. Mais l'hôte doit aussi payer cette cotisation parce que donc ça lui donne l'opportunité d'être dans ce livret. En fait, ce qu'il suffit de faire, ce qu'on a vu aussi beaucoup en Nouvelle-Zélande et notamment au Canada, où il y a 8 mètres de neige l'hiver, c'est il suffit de dire « moi, je reçois de tel mois à tel mois ». Et puis si tu changes d'avis entre-temps, il suffit que tu envoies un mail à l'association Woofing et que tu leur dises mes disponibilités ont changé, est-ce que vous pourriez mettre à jour sur le site internet ? La liste est à 2 endroits, elle est sur le livret, qui une fois qu'il est imprimé, bien sûr, on ne peut pas changer. Et elle est sur le site internet où là, on peut amender si tu as des nouvelles informations, des photos à mettre ou quoi que ce soit. Donc oui, tu peux tout à fait, tu fais comme tu veux, t'es pas obligé de recevoir toute l'année. Si un jour, t'as de la famille, un week-end, et que tu peux pas recevoir, tu peux dire que tu prends personne. Donc, il suffit juste de le dire au téléphone aux gens, en fait. Hein. Tu peux même changer d'avis, hein, si à un moment tu as décidé de recevoir telle ou telle personne et que finalement tu peux plus, tu leur passes un petit coup de fil. De la même manière qu'on demande au woofer d'avoir cette courtoisie de passer un coup de téléphone quand ils peuvent pas venir, ce que malheureusement beaucoup de gens ne font pas, et c'est très triste pour le woofing. Il faut pareillement que l'hôte le fasse, c'est-à-dire s'il a une indisponibilité, qu'il prévienne la personne qui doit venir chez lui. Parce que c'est encore plus embêtant pour le woofer, il a pas de maison. Donc...
Ce qui nous est arrivé plusieurs fois.
Ce qui nous est arrivé, oui. Une fois en Nouvelle-Zélande, on avait roulé à travers cette montagne, la Takaka Hill, là, c'était avec le van, c'était super difficile. Et on avait roulé pendant, je sais pas, peut-être 6 heures. Arrivé là-bas, le gars qui nous dit, écoutez, j'ai 15 woofers, parce que justement avant, des woofers se sont désistés. Donc là, j'ai décidé de dire oui à plein en me disant que finalement, il y avait 2-3 qui allaient venir.
Sur Booking,
voilà, il s'est retrouvé 15 personnes. Il nous dit, j'ai même pas assez de chaises et de couverts pour faire manger tout le monde. Donc je veux bien que vous veniez. Il était très gentil, ce monsieur, il était vraiment désolé. Mais il nous a dit, j'ai même pas assez de travail pour vous. Donc, on s'est retrouvé qu'on a été faire du tourisme un petit peu dans le coin, et puis qu'on a retrouvé un autre hôte derrière, parce qu'il ne faut pas se décourager. Hein. On repasse un coup de fil, on trouve une nouvelle personne, et puis roule jeunesse. Hein.
Donc, est-ce que vous aviez préparé tout à l'avance, ou est-ce qu'au fur et à mesure, vous aviez des nouveaux endroits ?
Alors, en fait, on a commencé par la France et le Canada, et c'est les deux pays qu'on a préparés, entre guillemets, au cordeau. C'est-à-dire qu'on a appelé les gens 6 mois avant, on a dit on va rester de telle date à telle date.
Ils nous ont pris pour des fous.
Et ils nous ont clairement pris pour des dingues, parce que ça se fait pas. Ça se fait, mais pas aussi longtemps.
Ça fait
4 fois
que vous m'appelez, vous venez dans 6 mois,
voilà,
qu'est-ce que vous faites ?
On les connaissait pas, on les a appelés pour leur souhaiter la joyeuse année, alors qu'avant même que... Enfin, ouais, c'était... On voulait préparer les choses correctement. Et il s'est avéré qu'au Canada, on s'est complètement planté, notamment sur les distances et les temps qu'on avait prévus de voyage entre les woofs. On avait pris en moyenne entre 1 jour et demi et 2 jours de distance entre les woofs,
bon,
sachant qu'entre le deuxième et le troisième, il y avait 2 700 km, quoi. Donc autant dire qu'on les a pas fait. Et on s'est très vite rendu compte, d'une part, que planifier vraiment précisément à la manière, à la gestion de projet, je dirais, ça colle pas vraiment au milieu. Il y a un minimum de courtoisie et de bon sens à avoir pour dire aux gens, bah voilà, je viens à peu près là et je repars là. Après, et puis d'affiner 15 jours avant, mais planifier vraiment 3, 4, 5, 6 mois avant, surtout quand on arrive chez des particuliers qui sont un peu tributaires du boulot qu'ils font à côté, de la saison, du temps qu'il va faire s'ils construisent la maison, etc. C'est juste pas possible. Et puis il y a aussi un autre point qui est vachement important, c'est que c'est aussi tout l'attrait du voyage, la spontanéité, de pouvoir dire bah, je rencontre quelqu'un sur la route, finalement je vais avec lui.
Quand on bouffe seul. Quand on est en couple, bon,
c'est
on
vrai.
Va moins suivre des inconnus, mais quand on est tout seul, on est très tributaire des rencontres et des amitiés qu'on se fait sur le chemin, et c'est important justement de garder cette liberté de dire je vais là.
Toi, je ne
connaissais pas encore.
Et est-ce que vous avez gardé des contacts avec les personnes chez qui vous êtes allé woofer, justement ?
Ah oui. Oui, oui. Bon, pas tout le monde, hein, parce qu'on a fait, je crois, on a fait entre 18 et 20 familles, si on compte ceux chez qui on est rapidement parti, et qui sont tous d'ailleurs remerciés. On les remercie encore aujourd'hui.
Alors, c'était ma question suivante. Est-ce que vous voulez leur dire un petit mot ? Comme on a la chance d'être enregistrés, vous avez peut-être un petit mot à leur dire. Qu'ils sont au courant qu'il y a un livre qui est sorti, justement ?
Oui, parce que je l'ai envoyé à quelques-unes des personnes avec qui on a gardé des très bons contacts, justement. Il est vrai que dans la pratique, on a gardé des contacts plutôt avec les personnes en France et les personnes qu'on est finalement amenées à revoir bientôt. On a aussi gardé des contacts, notamment avec cette dame de... Quel âge avait-je, je vous le dis, elle devait avoir 65 ans, qui était une personne absolument formidable, chez qui on a bouffé pendant 2 semaines, et ensuite, pendant 5 semaines, on a fait du house-sitting chez elle. On a gardé sa maison à Noël. C'était trop génial. Et donc, ça, c'est des gens avec qui on a échangé, on a eu vraiment un contact humain très très riche. Et ces gens-là, on a envie de garder contact avec eux, on a envie de leur dire.
Clairement, des gens chez qui on pleure quand on part, quoi.
Il y en a eu des fois, hein, parce que le woofing, c'est une séparation et c'est des choses. C'est des émotions qui sont très fortes parce qu'elles sont condensées dans le temps, justement. Et aussi du fait qu'on voit vraiment que le côté positif chez les gens. Parce que quand on reste sur une courte période, parce qu'on peut dire qu'un mois, 2 mois, c'est court dans la vie d'un individu, eh ben, généralement, on montre le bon côté de soi-même. Et puis quand on invite des nouvelles personnes chez soi, on a envie de leur montrer qu'on est heureux, qu'on est une famille en pleine santé, et en plein de bonheur. Mmh. Donc, c'est bien aussi. Il y a aussi les mauvais côtés. Il y a des gens à qui on passe jamais un email, un coup de fil. C'est très important quand on est woofer en France, woofer si vous nous entendez, très important d'envoyer un email à Woof France pour leur dire on n'est pas content, on a été chez ces gens-là, on n'est pas heureux. Après, il y a beaucoup de subjectifs. Nous, il nous est arrivé d'être... on est notamment une fois allé en Nouvelle-Zélande dans un éco-village. Un éco-village, ça nous paraissait super. En plus, c'était un éco-village un peu comme l'association Cocopelli en France qui s'occupe de faire des graines
de plantes
anciennes. Ouais. Là, c'est un peu l'équivalent néo-zélandais. Et dans cet éco-village, on s'est senti mal parce que l'ambiance n'était pas en adéquation avec ce qu'on s'attendait d'un éco-village. Bon, sans rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas envie non plus de faire de la polémique là-dessus, mais on n'était pas bien, on se sentait mal. Et donc au bout de 3 jours, on est parti. Et ces gens-là, ça n'aurait pas fait sens en fait de leur laisser une mauvaise appréciation parce que c'était un point de vue très subjectif. Et c'est là où le reporting a ses limites parce qu'il faut bien, regarder. Pareillement, si un autre va critiquer un woofer, est-ce qu'il l'a critiqué parce que vraiment le woofer, il n'a rien foutu, il n'a pas travaillé, il n'a pas fait la vaisselle, ou est-ce que c'est simplement parce qu'il a une tête qui ne lui revient pas? Donc c'est délicat.
Ouais.
Mais je pense qu'il faut vraiment le faire, il faut envoyer. Après, c'est à l'association Woof France ou Woof Canada ou Woof Argentine de faire le tri, voilà, et de voir justement, de faire coïncider si plusieurs plaintes arrivent sur la même personne. Mais nous, on a été cette dame dont je vous parlais tout à l'heure qui nous interdisait de prendre des douches. C'est rigolo parce que quelques woofs plus tard, on a retrouvé une woofeuse dans un marché. Comme ça, on tenait un stand de marché, on vendait des coucourges. Et il y a cette woofeuse qui arrive qui nous dit Ah, mais je vous connais, vous êtes Nathalie et Nicolas. Oui, oui, il y a Joy. Elle s'appelait Joy, la vilaine hôte. Oui, il y a Joy qui m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez venue, que vous étiez vite repartie. Elle n'a pas compris pourquoi. Je lui dis, mais toi, t'es restée. Elle dit, non, moi, je suis partie au bout de 3 jours. Je lui dis, mais voilà, donc peut-être qu'elle a compris, Joy, pourquoi est-ce qu'il y a autant de turnover chez elle. Et c'était très rigolo. Et suite à ça, justement, on a été mettre un mail, parce qu'au début, on ne l'avait pas fait, mais on a été mettre un mail à Woof, à Nouvelle-Zélande, en disant, il y a un problème chez cette personne. Donc oui, le reporting, c'est très important, surtout sur un concept. Un peu jeune comme ça. Ouais. J'espère que j'ai pas vu le site de Woof France, mais j'espère qu'il y aura cette possibilité de le faire.
Ouais. Modéré.
Ouais, peut-être modéré par l'association pour pas qu'il y ait non plus de commentaires trop méchants.
D'abus.
Il faut pas hésiter à expliquer quand on a eu une mauvaise expérience aussi.
Donc c'est chaque association en fait de woof du pays qui répertorie les sites. Mais il y a peut-être des pays où il n'y a pas d'association.
Il y a des pays où il n'y a pas d'association. Ouais.
Donc comment font les gens pour se débrouiller comme...
Ah bah ils woofent pas.
Ouais.
Ils woofent pas.
C'est... Ils le font mais pas sous couvert d'une association. Ouais.
En Afrique qui est un continent où il y a beaucoup de pays, il y a certains pays qui ont l'association woofing qui est très petite et où pour le coup c'est pas du tout ni par un livret ni par un site internet mais c'est une adresse postale en fait. On voit l'adresse postale sur le site WoofGuide. J'ai fait un listing de tous les pays en fait. Donc si vous avez décidé d'aller faire du woofing, j'en sais rien moi, en Bolivie, allez regarder si ça existe avant sur le site. Et donc c'est chaque pays qui décide ça de manière internationale et c'est pas du tout formel, c'est-à-dire qu'il y a pas Woof Monde qui chapeaute et qui dit ah, ok, toi tu veux faire du woofing dans ton pays, pas de problème, alors il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Ils m'ont expliqué justement où France, alors j'espère que je ne déforme pas leurs propos et que j'ai bien compris ce qu'ils m'ont expliqué, quand ils ont décidé de monter, c'était il y a 5 ans, l'association Woof France, ils ont écrit un mail à woof.org, Woof International, qui leur a dit « Ok, pas de problème, bah, c'est bien, on prend note que vous allez monter une association en France, allez-y ». Et donc voilà, donc ils ont tout fait tout seuls. Et ils ont fait du très bon travail, hein, parce que ça marche bien aujourd'hui. Il y a 10 000 woofers, je crois que l'année dernière, ils ont eu 10 000 woofers. Ce qui est quand même pas mal.
Français.
Ouais. Alors, français, je sais pas. Je sais plus si c'est eux qui m'ont dit ça ou si c'est un autre qui m'a expliqué qu'il y a à peu près 70% des woofers en France qui sont français. Contrairement en Nouvelle-Zélande, où quasiment l'intégralité des woofers sont pas néo-zélandais. Les néo-zélandais, ils woofent pas, ils s'en foutent de woofer. Les néo-zélandais, ils ont envie d'aller à la plage et de faire du surf, et ils ont bien raison. Mais donc il y a beaucoup d'étrangers et en France c'est vrai que c'est les Français qui woofent et de plus en plus les étrangers, mais finalement pas tellement, parce que est-ce que c'est parce que la France est un pays qui est touristiquement connu pour la Tour Eiffel et la Côte d'Azur, je sais pas, mais j'ai... peut-être oui aussi, c'est vrai qu'on a une réputation assez houleuse à l'étranger, mais justement avec le woofing on va pouvoir changer cette réputation et j'espère que de plus en plus les Allemands, il y a beaucoup de jeunes Allemands qui viennent en France, il y a beaucoup d'Anglais aussi. Et donc j'espère que de plus en plus, il y a des Japonais aussi, beaucoup de Japonais. Donc voilà, il ne faut pas hésiter quand on ne parle pas bien anglais et qu'on est un hôte. Surtout, n'hésitez pas à prendre des woofers parce que le langage, ça se, c'est important, mais c'est pas tout, quoi. Nous, quand on était au Japon, on a tissé des liens très très forts avec des gens avec qui on n'arrivait pas.
On se comprenait pas.
mais c'était incroyable. On a eu cette conversation avec cette dame qui nous avait fait un cours de calligraphie où on n'a pas compris un mot l'un de l'autre, à part lui dire konnichiwa, qui veut dire bonjour en japonais. C'était très rigolo. On avait un traducteur et on essayait de se parler par traducteur. Puis au bout d'un moment, on a laissé tomber. On a bu une tasse de thé en se regardant, en souriant et en se disant plein de choses avec les yeux et avec l'esprit. Et c'était vraiment chouette, quoi. Ça, c'était bien.
Voilà, mais c'est déjà la fin d'une heure. Ça passe très vite.
Oui, ça passe vite. On a beaucoup parlé. Hein.
Oui. C'est normal, il y a plein de choses à dire. Moi, je vous félicite en tout cas pour ce livre parce que je l'ai trouvé, enfin, surtout toi, Nathalie. Désolée, Nicolas, mais c'est quand même Nathalie qui l'a écrit. Oui. Je l'ai trouvé vraiment très bien fait. Ça donne envie de partir. Clairement, en lisant votre livre, on trouve ça génial. On a envie d'aller au bout du monde et bravo.
Ou d'aller au coin de la rue pour aller bouffer, d'ailleurs.
Alors, quel serait le mot de la fin pour conclure
Eh bien, achetez le livre, et puis au-delà d'acheter le livre, si vous n'avez pas envie de l'acheter, faites-le vous prêter, ou venez sur le site pour en discuter avec nous. Moi, j'attends beaucoup des retours, justement, et de lecteurs, et aussi de gens qui ont fait du woofing avant, pour publier des petites interviews et des petits portraits, comme je disais tout à l'heure, parce que je pense que c'est important de raconter ces histoires de woofing pour donner envie à d'autres personnes de le faire. Hein. C'est pas un concept qui est encore très connu, donc il ne faut pas hésiter. Et surtout, il faut partir. Hein. Il faut partir. Ouais. Ça, c'est quelque chose que les Allemands font beaucoup dans leur culture. Ils ont une année de césure, où entre ils ont 19 ans à peu près. Voilà, entre lycée et université, ils partent pendant un an pour faire plein de trucs, découvrir le monde, aller travailler, faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est super et ça ouvre l'esprit. Et nous, ce voyage, il nous a donné une nouvelle perspective dans notre façon d'envisager les choses à court, moyen ou long terme. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait s'offrir à un moment. Parce qu'en plus, ça coûte pas cher, un voyage comme ça. Quand on est parti, tout le monde nous a dit « Oh, vous avez trop de chance !» Non, on n'a pas de la chance. On a économisé pendant un certain temps. Puis après, c'est le courage de dire non à son quotidien et son confort pendant un moment. C'est vrai que tout le monde n'a pas envie de le faire. Hein, mais pour les gens qui se posent la question, bah, moi, je vous le dis, il faut pas hésiter, il faut y aller. Parce que c'est que du positif. Et même quand on est salarié et qu'on se pose la question de savoir si on peut arrêter de travailler pendant un moment parce que sa carrière, ceci, cela, voilà, on est deux bons exemples. On a tous les deux retrouvé des boulots dans lesquels on est très heureux. Et donc, il faut y aller. On peut toujours valoriser ce genre d'expérience. En fait, a fortiori, on peut toujours expliquer. Et si votre patron, il vous dit, oh, mais qui, vous avez un trou dans votre CV, pendant un an, vous n'avez rien fait. Non, je n'ai pas rien fait, j'ai fait du woofing. Et le woofing, c'est solidaire, c'est écologique, c'est économique. Il y a plein de façons de vanter ce type de voyage. Il y a même des patrons qui se trouvent ça super. Merci, nos patrons. Donc, voilà. Donc, voilà.
Donc, c'était donc le mot de la fin.
C'était le mot de la fin.
Voilà. Merci à vous.
Merci à vous d'être venu.
Merci d'être venu, ouais.